Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Délivrez-vous pour ces deux ailes. J'espère que vous avez passé un bel été, ensoleillé, certainement chaud également. En tout cas, c'est un vrai bonheur de vous retrouver. Je voulais vous dire que c'est ma 20e année, là, en septembre 2022, que je fais cette émission Délivrez-vous, que j'ai créée, que l'on m'a donné la possibilité de créer, d'en être la productrice. C'était en septembre 2002. Vous voyez, vous savez tout. Alors pour cette rentrée littéraire, riche en événements littéraires, en belles aventures et auteurs de toutes sortes, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir un auteur que j'apprécie beaucoup, et je sais que vous aussi, avec un titre qui sort un petit peu du lot de toutes ces sorties, ça n'en laisse pas moins le mérite aux autres bien évidemment, sur un personnage historique que l'on aime ou que l'on n'aime pas, en qui l'on croit ou en qui l'on ne croit pas. Peu importe. L'essentiel, c'est de parler de lui, de parler de l'homme et de son histoire. Et pour cela, il fallait un historien de talent, il fallait un homme d'une clarté, d'une lucidité assez favorable pour cet homme et pour ce roman et pour cette histoire. Donc, je vous présente aujourd'hui, je suis sûre que vous le connaissez, Monsieur Gilbert Borde. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre nouvel ouvrage « Jésus, trois jours avant sa mort » aux éditions IXO. Alors, on va le rappeler, hein, vous êtes l'auteur de nombreux livres, de nombreux prix littéraires, vous êtes romancier, historien, également luthier, nous en parlions en antenne, donc c'est bien de le préciser. Ma première question, ça va être « Pourquoi avoir écrit ce livre sur Jésus, trois jours avant sa mort ?»
Alors, ce livre sur Jésus, j'y pense depuis de nombreuses années.
Oui.
Je rassemble la documentation, je réfléchis. Pour tout vous dire, lorsque j'étais enfant, je suis allé au catéchisme, comme beaucoup d'entre nous. Mmh. Je m'étais enfant de cœur et je n'étais pas très convaincu par les images pieuses que l'on me montrait. Un Jésus dont la tête était auréolée d'une lueur blanche,
oui.
Une Marie que l'on voyait qui ressemblait plus à une statue,
oui,
qu'à une femme.
Très pâle, toujours très pâle.
Toujours très pâle, voilà. Tout ça me gênait un peu, parce que je me suis toujours dit que derrière ces images, derrière ces croyances, il y avait sûrement un homme, une femme, ou plusieurs femmes d'ailleurs,
oui,
et qu'il fallait essayer de lui donner vie, non pas pour l'éloigner de sa fonction divine, mais pour simplement montrer qu'il a pu être un homme exactement comme nous, un homme tel que les historiens d'ailleurs le découvrent de plus en plus.
Oui, alors il y a eu des récentes découvertes archéologiques, mais c'est vrai que l'on soit croyant ou pas croyant, et quelle que soit notre croyance et notre foi ou non, Jésus, on peut en parler en tant qu'homme parce que ça a été un être humain, un homme qui a voulu sans doute transmettre la bonne parole, l'amour et réunir l'humain dans tout son ensemble et dans toute sa splendeur. On parle aussi beaucoup, il y a aussi bien sûr sa mère, Marie. Il a été aussi entouré de beaucoup de femmes. Il a eu également pas mal de frères et sœurs. Hein, donc ça aussi c'est important, ça le remet aussi dans une famille, dans une saga familiale, dirais-je.
Absolument, oui.
Allez-y.
Ce que je voulais surtout dire, c'est que ce Jésus, j'ai voulu en faire un homme parce que je pense qu'il a été tellement important. Écoutez, il a dit une phrase, une simple phrase pour le résumer. Aimez-vous les uns les autres.
Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé.
Si on avait appliqué cette règle, nous n'en serions pas où nous en sommes pour l'instant.
Bien sûr.
Donc voilà.
C'est vrai.
Rien que cette phrase mérite qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'intéresse à l'homme qu'il a été, à la manière dont il a vécu, à la manière dont il est mort.
Oui.
Parce qu'on raconte beaucoup de choses qui ne sont pas forcément totalement justes, qui sont plus ou moins décoloré par des dogmes que je ne redis pas forcément,
oui,
mais que j'ai systématiquement éliminé pour ne laisser que l'homme le personnage historique.
Mmh. Alors, 3 jours avant sa mort, c'est parce que, bien, pour ceux qui sont croyants et ceux qui ne sont pas, on le rappelle, hein, il est rentré dans Jérusalem, puis ensuite a été crucifié. Il gênait les prêtres du temple, il gênait Hérode, également le procurateur Ponce Pilate, tous ces personnages qui ont contribué à sa perte parce que, ben, il disait un certain nombre de choses, il était écouté et suivi, et bien évidemment, il gênait. Alors, ce qui est important, c'était les paroles qu'il pouvait transmettre ou qu'il voulait donner ou apporter, et il gênait parce qu'il avait cette puissance de conviction aussi.
Oui, et il gênait aussi et surtout parce qu'il était descendant de David,
Et oui.
qu'il était extrêmement populaire,
Oui,
c'était
oui.
une star.
L'héritier de la couronne d'Israël.
Il était l'héritier de la couronne d'Israël.
Oui.
Ça gênait beaucoup Hérode, qui
oui.
avait une petite couronne que les Romains lui avaient laissée, Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand.
Oui.
On la lui avait laissée, mais on aurait pu la lui reprendre du jour au lendemain. Donc lui, ça le gênait beaucoup que Jésus arrive, descendant, pardon, de Ponce Pilate,
Oui.
et qui était légitime sur le trône d'Israël. Il aurait d'ailleurs pu réunir les 12 provinces. Alors, ce qui compte surtout, c'est que lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, mais avec énormément, énormément de foule autour de
Oui.
lui, applaudi, il a demandé à Jean d'aller lui chercher un ânon.
Oui.
Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète avait dit que le descendant d'Israël, le futur roi d'Israël, le descendant de David, pardon, le futur roi d'Israël arriverait, entrerait dans Jérusalem, monté sur un ânon. Donc, on voit bien qu'il a l'intention de montrer qui il est. Évidemment, ça gêne des gens qui, par ailleurs, se détestent,
Oui.
les gens du temple qui ont besoin de la religion pour bâtir leur fortune. Puisque quand la Pâque arrive, il est obligatoire de faire un don à Dieu. Ce don, bien sûr, ça les enrichit.
Oui.
Donc, Hérode, dont
Hérode,
je vous ai parlé à
oui.
l'instant,
Oui.
et Pilate est un petit peu différent. Lui, il aurait pu s'en arranger. Pilate n'est pas un homme de grand caractère. Il aurait pu s'en arranger, mais il avait quand même très peur
Oui.
qu'on lui fasse des reproches à Rome et de perdre sa position
Sa
de
position.
préfet.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que quelque part, il voulait aussi lutter contre l'occupation romaine. Aussi,
Ah,
c'est
certainement,
important,
oui,
hein.
bien
Ça,
sûr.
c'est quelque chose qui le mettait, on va dire, hors de lui. Mais on s'aperçoit aussi que c'est un homme de conviction, assez calme, assez sage, mais également, il est capable de colère aussi.
Il est capable de colère. Jésus, tel que les textes, enfin, tel que le dépeignent maintenant ceux qui ont étudié à fond les textes, les grands érudits, disent que c'était un homme d'abord jovial, qui aimait rire, qui aimait la vie,
Oui.
qui aimait la bonne chère. Et ça, c'était avant qu'il ne parte dans le désert pendant 40 jours, où là, il a été vraiment inspiré, où il a reçu une flamme divine, et où il est revenu en tant que prêcheur.
Oui.
Il faut dire aussi qu'à cette époque, la religion et la politique étaient intimement liées, de telle sorte que les prédicateurs, les prêcheurs, les prophètes, si l'on veut, qui allaient de ville en ville en racontant leur vision du monde et en parlant de Dieu, donnaient une vision de la société. C'était des hommes politiques.
Oui.
Voilà. Et donc, Jésus rentre dans Jérusalem. On sait qu'il a prêché un peu partout, qu'il est accueilli partout comme le roi. Donc forcément, Jésus doit disparaître.
Oui. Alors justement, le sujet aussi du livre, c'est même pas une question, c'est la mort de Jésus est un crime politique dans toute sa splendeur.
Absolument, c'est un crime politique. On a fait tout ce qu'on a pu pour le condamner, pour le crucifier.
Oui.
Et évidemment, c'est un crime
C'est un
politique,
crime
bien sûr.
politique, oui. Alors,
Voilà.
on s'aperçoit, donc, on disait Marie, hein, sa mère, qui est une femme comme vous et moi, une femme humaine. Il a eu plusieurs, je crois que c'est quatre sœurs et deux frères.
Oui.
Probablement
Alors,
peut-être de Pierre, pas de Pierre, mais de Joseph et du frère de Joseph. C'est un petit
on ne sait
peu,
pas.
on ne sait pas trop,
Alors
oui.
là, je suis exactement
Oui.
dans ce que disent les historiens et
Oui.
totalement en dehors des dogmes de l'Église. Les dogmes de l'Église ont fait de Marie une
Oui,
vierge,
bien
et
sûr.
vierge Alors, il ne faut pas oublier que la virginité de Marie n'est considérée qu'à partir du 3e siècle, 3-4e siècle
après Jésus-Christ,
après Jésus, et que la virginité universelle de Marie, c'est au 6e siècle que l'on en parle, et que les premiers chrétiens, les tout premiers chrétiens, n'avaient rien à faire de ça. Ils savaient très bien que Jésus avait des frères et des sœurs, que Marie avait été une maman, comme toutes les mamans de la terre. Et je trouve même que cela donne au personnage de Jésus une grandeur magnifique. Parce que imaginez que Jésus soit uniquement le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, il a tous les pouvoirs, il peut tout faire. Donc il n'a aucun mérite à être crucifié, puisqu'il sait très bien qu'un jour, que tout de suite, il va ressusciter.
Bien sûr.
Alors que Jésus, homme, c'est autre chose. C'est sa vie qu'il donne pour les hommes. Sa vie entière. Il n'en a qu'une.
Il n'en a qu'une. Alors, et également, parce que vous parliez du côté, le rapport humain, on ramène Marie du côté humain. Je crois que jusqu'au 5e ou 6e siècle, jusqu'au pape Grégoire IV, quelque chose comme ça, les prêtres se mariaient.
Oui. Alors, les prêtres se sont mariés au début. Ils avaient une vie de famille. Et puis, pourquoi on a décidé le célibat des prêtres? Alors, on pourra en discuter, il y a des tas de dogmes qui sont derrière. Mais il y a aussi, je pense, le fait que l'Église catholique, l'Église chrétienne, s'est faite exactement à l'image de l'Empire romain, avec un empereur à Rome et de qui viennent tous les ordres, toutes les lois, et auxquelles on doit obéir. Or, quand on crée un empire comme celui-là, il faut aussi être très riche. La richesse, elle sert beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'un prêtre marié qui aurait des enfants, s'il a des biens, ses biens reviennent à ses enfants. Et qu'à partir du moment où les prêtres sont célibataires, les biens qu'ils ont, et ce sont souvent des gens de famille relativement aisés,
reviennent à l'église.
Voilà.
Puisque vous parliez de Rome, puisqu'on parle de Jésus, on peut parler de la papauté, puisque le Saint-Père représente, c'est la figure de Pierre, on va dire.
On pourrait en discuter.
Si je fais une parenthèse rapide, si on parle de Rome et de cette croyance, ne serait-ce qu'en Italie, en 1870, Rome, c'était encore un état pontifical et n'appartenait pas encore au royaume d'Italie.
Ils étaient encore tout puissants. C'est parfaitement vrai. C'est parfaitement vrai. Si vous voulez, Pierre, vous connaissez la magnifique phrase Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Tout à fait.
Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Jésus, l'église n'existait pas, l'église n'existait pas. Et que Pierre était un tout autre bonhomme, c'était un ancien pêcheur qui pouvait difficilement diriger. Non, la suite de Jésus, c'est Jacques, le jeune frère de Jésus, qui a pris la suite et qui est allé prêcher dans Jérusalem même, parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus n'a jamais, jamais eu l'intention, ni même pensé un seul instant qu'il était en train de créer une nouvelle religion. Jésus est né juif et il est mort juif. Ce qu'il voulait, c'était réformer la croyance juive de manière à obtenir...
Et la société humaine aussi, quelque part.
La société humaine. À travers cette société-là, c'était la société humaine.
Parce que
quand il parlait du royaume de son père, c'était un royaume où tout le monde pourrait être bien, tout le monde pourrait s'aimer, et les riches seraient les pauvres, les femmes seraient les hommes. C'est un royaume où les gens seraient tous égaux.
Égaux, et oui.
Voilà. Eh bien, c'est merveilleux, cette histoire.
Oui.
Quand on la
c'est une belle histoire.
Bien,
oui,
et qu'on sort un peu des dogmes qui ont tendance, malgré leur valeur symbolique, ont tendance à occulter un peu, à obscurcir un peu l'œuvre de Jésus.
C'est vrai. Eh bien, j'espère que ce qui ne va pas occulter la journée et l'œuvre de chacun, c'est cette petite pause musicale. Et nous nous retrouvons tout de suite après.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 vain. I don't even know the name, but if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah.
Sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Gilbert Borde sur son dernier roman Jésus, trois jours avant sa mort, aux éditions XO. Alors, on s'aperçoit aussi au travers de votre livre, et on va parler de vos recherches et sur quels documents vous êtes appuyé, que Jésus a été énormément entouré de femmes et Marie-Madeleine qui, au fur et à mesure des recherches, on s'aperçoit que finalement ça a été sa compagne.
Eh oui, enfin, je ne peux pas l'affirmer.
Oui, on ne peut pas l'affirmer, bien sûr.
On ne peut rien affirmer.
On peut rien affirmer.
On pourrait même dire que Jésus n'a jamais existé.
On pourrait.
Ben oui, parce qu'on a. Mais Jésus, Marie-Madeleine et Jésus vivaient en parfaite entente.
Oui.
Et vous pourrez remarquer que dans le roman, j'ai fait leur, comment dire, leur rapport extrêmement
oui.
chaste.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Très pudique, très chaste. Oui.
Hommes et
oui.
femmes.
Oui.
Ils ont une communion de l'âme, mais pas oui. une communion du corps.
Du corps. Oui, tout,
tout
à
ça,
fait.
Tout ça, c'est une. Il y a une raison très profonde. Donc je reparlerai plus tard si vous m'aurez invité quand j'aurai écrit le livre sur...
Sur Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine, évidemment.
Avec plaisir.
Et voilà, donc ce que je peux dire, c'est qu'ils vivaient dans une symbiose spirituelle totale.
Mm-hmm.
Et que Madeleine étant très riche, elle aidait quand même beaucoup Jésus et tous ses apôtres, tous ceux qui le suivaient. Il fallait bien manger tous les jours. Alors, Jésus ne possédait rien. C'est vrai qu'il ne possédait rien.
Mm-hmm.
Mais Madeleine, elle est là quand même pour aider un peu quand il y en avait besoin.
Oui. Alors, dans votre livre, qui est... en fait, moi, je l'ai trouvé profondément humain, ce livre, ouvert sur l'homme, sur la tolérance, sur la compréhension, ouvert à l'autre. Et ça, c'était très important pour parler de Jésus, parce que je pense que c'est, à mon
c'est
sens, la meilleure façon d'en parler.
C'est l'essentiel.
Alors, il y a des récentes découvertes archéologiques. Sur quoi vous vous êtes-vous appuyé? Je suppose que, au vu de ce livre, de ce qui est écrit, vous avez cherché, travaillé, fouillé.
Beaucoup.
Dites-nous, comment ça s'est passé?
Alors, je ne vais pas citer tous les gens que j'ai
lus.
J'ai commencé à lire, je les avais lus, relus les évangiles canoniques.
Oui.
Puis je me suis appuyé, parce que je vais vous dire que c'est quelque chose, les évangiles apocryphes,
oui. je
crois 21.
Oui.
Et évidemment, il y a dedans des choses inintéressantes, mais il y en a d'autres qui sont captivantes. Où
oui.
on raconte
J'imagine.
Comment vivaient finalement les premiers les premiers chrétiens. C'est un joli miroir de cette époque.
Ça, j'imagine.
Il y a ensuite, il y a eu les manuscrits de la Mer Morte. Bon, je ne les ai pas lus.
Les rouleaux, oui.
Les descriptions, ce qu'en disent les différents érudits qui les ont lus. Mm-hmm. J'ai lu aussi nombreux livres, les Américains sont très forts là-dessus, et qui comparent les évangiles et qui en découvrent les contradictions. Par exemple, au niveau des frères et sœurs de Jésus, mm-hmm. certains sont silencieux, d'autres un peu moins. Mm-hmm. J'ai lu plein, vraiment. Et puis alors, j'ai eu un avantage extraordinaire qui m'a vraiment poussé aussi à écrire ce livre, c'est que j'ai connu, il y a déjà pas mal d'années, Gérald de Messadier, qui était un érudit extraordinaire et qui publiait ses livres chez Lafon comme moi. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer, de le voir, de le revoir. Mm-hmm. Il m'a bavardé avec lui. Il m'a beaucoup, beaucoup apporté, évidemment.
Mm-hmm. Alors, justement, alors, il y a aussi, quelles sont les dernières découvertes récentes qui nous apportent une nouvelle lumière sur la vie de Jésus, sur son empreinte?
Oui, il y en a une. Bon, alors, je ne vais pas tout dévoiler parce que tout ça, ça fait partie de mon prochain bouquin. Mais il y a une chose, c'est que, pas le prochain, celui qui viendra après. Oui. Une chose très, très certaine et très étrange, c'est qu'on a découvert une tombe à Jérusalem, tout à fait par hasard, dans laquelle il y avait Jésus, fils de Joseph, et Joseph, où il y avait Marie, femme de Joseph, il y avait Jacques, frère de Jésus. Enfin, il y avait toute la famille. Mmh. Et un mathématicien américain a appliqué la théorie des probabilités sur cette tombe. Et selon lui, parce que à l'époque de Jésus, beaucoup de gens s'appelaient Jésus, Joseph, Marie.
Oui.
Et selon lui, la réunion de toutes ces personnes dans un même caveau est totalement improbable, autre que si c'était la famille de Jésus.
Donc
on aurait découvert la famille de Jésus. Tout ça, j'en parlerai plus longuement, je vous dis, dans un autre livre.
D'accord.
Bon, personne n'a voulu en parler, l'Église n'est évidemment pas d'accord.
Bien sûr.
Mais voilà, elle existe, cette tombe.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que romancier et quelque part aussi chercheur, et parce que vous êtes passionné aussi par ça, du Saint-Suaire?
Je n'ai pas d'idée là-dessus, parce que il y a eu plein de choses. Et ça a été remis en cause très régulièrement, la datation du Suaire. Très franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
D'accord.
Parce que on veut que le Suaire serait la preuve de la mort de Jésus. Mmh. Moi, vous avez vu dans mon roman comment il se termine.
Oui, oui.
Bon, ben le Suaire, il existe déjà.
Oui, bien sûr.
Pour moi, certains disent qu'il date du Moyen-Âge. Lorsqu'il a été, daté, il paraît qu'il y aurait des erreurs. Je pense qu'à partir du moment où la foi, la croyance se mêle de recherches scientifiques, parce que là, c'est plus de l'histoire, c'est de la science.
C'est de la science,
On n'y arrivera jamais. Mmh. On n'y arrivera jamais parce que on dit le Suaire, il est du 12 ou 13e siècle. Non, c'est pas possible. Les recherches ont été mal faites. Les analyses ont été mal faites. Il faut recommencer. On peut recommencer 150 fois et on n'y arrivera jamais.
Bien sûr.
Pense que si on croit que c'est le vrai Suaire, et si les gens qui l'approchent et se sentent réconfortés, on se sentent en eux une force, les grandir et les aider à être heureux,
tant mieux.
Véritable Suaire, bien évidemment.
Tout à fait. Alors, dans votre livre aussi, il y a beaucoup, je dirais, d'humilité, une forme de simplicité, parce que vous approchez les choses, je dirais pas prudemment, mais avec beaucoup d'humilité, de simplicité, d'humanité aussi, parce que je pense que pour faire ce genre de livre, il faut être rempli de tout cela. Moi, j'ai découvert aussi, au travers de votre livre, un Gilbert Borde et un Jésus profondément homme et surtout profondément concerné par l'humanité et par ce monde.
Ah oui, absolument, absolument. Jésus m'intéresse justement parce que il aurait dû apporter à l'humanité tant de choses si les hommes avaient été un tout petit peu plus sages. Mais voilà, c'est comme ça, Jésus. Mais peut-être le redécouvrira-t-on. Ce que je regrette actuellement, c'est que les gens manquent de spiritualité.
C'est vrai.
C'est qu'on est devenu extrêmement cartésien au point de dire, de croire que la science c'est tout et on est athée et on réfute Jésus, on ne sait même plus, beaucoup de gens ne savent même pas qui il est, et c'est ça que j'ai voulu combattre. J'ai voulu leur montrer que Jésus était un homme comme eux, mais qu'il avait une manière de parler qui pouvait peut-être permettre d'espérer qu'il était inspiré par une force supérieure.
Est-ce que vous avez des retours de prêtres, de l'Église? Est-ce que
non,
vous
pas
avez...
pour l'instant,
pas
c'est,
pour
trop
l'instant.
Tôt.
C'est trop tôt.
Le livre n'est sorti qu'il y a à peine une semaine.
Une semaine, oui.
C'est un peu trop tôt, mais il y en aura peut-être.
Oui, oui.
J'ai eu des retours de gens, mais tant pis, de gens très intégristes qui, eux, sont totalement contre.
Bien sûr.
Ce que je comprends, et je pense que c'est dommage, parce que ce n'est pas du tout contre leurs croyances que j'ai écrit ça. C'est au contraire, en les respectant totalement.
Oui, bien sûr. Ben, y a un profond respect. On sent qu'il n'y a, a rien qui déborde. C'est très clair, c'est très sain. Il n'y a pas de...
Les dogmes...
Y a pas de...
Voilà, les dogmes ont une force. Mmh. J'ai remis en cause, par exemple, la virginité de Marie.
Oui.
Mais le dogme de la virginité est quelque chose d'extrêmement important. Il faut méditer et symboliquement très fort. Mais c'est pas mon sujet.
Non,
à partir du moment où les gens ont découvert Jésus et ont compris que ce personnage, il allait bien au-delà de l'humain, eh bien, que ces gens-là aient envie d'aller un petit peu plus loin et de découvrir justement les symboles qui sont derrière tous les dogmes de l'Église.
Oui. Ce qui est émouvant aussi dans votre livre, c'est le moment où il rentre dans Jérusalem avec ses pensées, entre ceux qui sont contents, ceux qui ne le sont pas. On voit les états d'âme, les pensées, les réactions de chacun. Moi, j'ai ressenti cette émotion parce que c'était émouvant, la façon dont vous l'avez fait. Et on sent que vous, ça sort des tripes. On sent que c'est quelque chose qui vous touche énormément.
J'ai tellement pensé que je me suis, allez, c'est extrêmement prétentieux ce que je vais dire, mais je me suis un petit peu assimilé à lui.
Oui.
Voilà, même si je ne lui monte pas à la cheville du pied, évidemment.
Oui. Mais on sent vraiment, vous savez, quand il rentre dans Jérusalem, on sent cette peine, cette lourdeur. Et je me suis dit, mais Gilbert Borde, il a presque souffert avec lui de cet homme qui ne voulait que le bien, quelque part aussi, et qu'on a massacré.
C'est complètement vrai ce que vous dites. Qui ne voulait que le bien, que le bonheur des hommes.
Oui.
Et les hommes l'ont tué comme si pour eux, le mot bonheur avait un sens péjoratif, comme s'il fallait refuser le bonheur, refuser la joie de vivre, refuser l'humilité. Et voilà, donc on arrive dans un monde extrêmement, j'allais dire... cruel,
inhumain,
c'est vrai,
inhumain, oui.
Mais inhumain.
Ce qui est terrible aussi dans votre récit, on prend conscience. Alors j'en ai pris conscience. Je ne sais pas comment sera pour les auditeurs. Qu'en fait, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Il a eu le choix que de mourir. Il n'a pas eu d'alternative.
Il ne la voulait pas, je pense aussi.
Ouais,
il ne le voulait pas. Il était sûr. Il était sûr d'apporter au monde quelque chose et il pensait sûrement que sa mort serait la meilleure manière de démontrer qu'il avait raison.
Oui, calmerait les choses et puis arrêterait les tempêtes. Arrêterait les tempêtes aussi.
Oui, alors que c'est faux. Puisque 20 ans après sa mort à Jérusalem, on pensait plus du tout à lui.
Oui, tout à fait. Mais c'est cet acharnement sur un homme. Comme quoi, c'est ce qu'on se dit en lisant votre livre. Je me suis dit finalement, cet acharnement, c'est que vraiment, il était dangereux pour certaines personnes. Il allait déranger. Donc un homme que l'on a tant haï, franchement, il dérangeait. Il aurait été un petit homme de rien du tout, de son époque. Mais c'est qu'il il apportait des choses, il disait des vérités. Et ça, il fallait surtout pas laisser faire.
Énormément de vérités. Et en plus... dans mon roman, je sais, vous avez vu le personnage de Judas qui est pour moi très important, il est un petit peu qui ressemblait à Jésus, on aurait pu les prendre pour des frères jumeaux.
Oui.
Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai dans la réalité, mais je l'ai fait pour que on comprenne bien que le mal et le bien, c'est les deux côtés de la même chose.
Tout à fait.
Voilà, Jésus a lui-même dit qu'il n'a pas connu. La tentation ne sait rien de la vertu.
Bien sûr.
Donc c'est absolument cette chose-là que je voulais montrer.
Oui. Ce qui est important aussi, c'est que il avait énormément d'instinct, beaucoup de prescience aussi, beaucoup de prescience.
bien sûr, bien sûr. Mais comment voulez-vous, un homme de ce niveau, il comprenait les choses, bien sûr, un peu avant les autres.
Bien sûr. En tout cas, c'est un livre passionnant, moi, qui m'a passionné, mais qui amène aussi à se poser des questions, et c'est très bien aussi, à réfléchir. Jésus, voilà. 3 jours avant sa mort aux éditions XO. Ça a été un vrai bonheur de discuter avec vous, Gilbert Borde. On aurait pu encore en dire beaucoup. J'espère que cela a donné envie aux auditrices et aux éditeurs de vous lire. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour, d'après ce que j'ai compris, d'autres projets. Ce sera toujours un vrai plaisir. Vous êtes un éternel invité à ce micro, Gilbert Borde.
Merci beaucoup et le plaisir est évidemment partagé.
Merci beaucoup. Jésus, 3 jours avant sa mort aux éditions XO. C'était Alice Gilbert Borde. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission, pour de nouvelles aventures littéraires. En attendant, belle rentrée, bonne reprise et à très bientôt. Merci. Au revoir.